Salut, c'est Samuel Catol. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Bise de Tour. Je suis le créateur et le réalisateur de cette série de podcasts. Dans cette série, j'invite des entrepreneurs de TPE-PME à venir échanger et nous partager leur histoire et leur parcours. Découvrir comment ils en sont arrivés là. Dans ce podcast, je te propose une semaine sur deux de partir à la rencontre d'une ou d'un entrepreneur avec qui j'échange sur son quotidien, ses succès, mais aussi ses échecs, ses craintes et ses galères. Découvrir ensemble ce qui fait de lui ou elle un entrepreneur en toute décontraction et transparence. Ainsi, pour nous suivre et ne pas louper les prochains épisodes, tu peux dès maintenant t'abonner sur notre page Bise de Tour sur la plateforme podcloud.fr ou sur la plateforme de ton choix. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Karine Lafont, une figure entrepreneuriale d'Indre-et-Loire. Alors qui est Karine ? Gérante de trois boutiques Natura House sur Tours et sa métropole, un mandat de présidente à la CPME 37, un mandat à la CCI Touraine sur la branche commerce, un siège au conseil des prud'hommes. Karine est donc une touche à tout, de multiples casquettes qui lui vont à merveille. Découvrons qui est Karine. Bonjour Karine, je suis heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Bise de Tour. Je te souhaite la bienvenue, comment vas-tu ?
Ben ça va.
Je vais commencer par la toute première question. Peux-tu te présenter ? Qui es-tu ?
Alors, je suis Karine Lafont. Je suis gérante depuis une quinzaine d'années de magasin Natura House à Tours, Tours-Nord, Jolet-Tours et Amboise. Et j'occupe différents mandats à la CPME 37.
D'accord. Quel est ton parcours ? Peux-tu nous parler de ton parcours d'entrepreneur ?
Mon parcours d'entrepreneur, alors j'ai eu un bac technologique, j'ai pas fait d'études derrière mon bac. J'ai repris des études quelques années plus tard, j'ai travaillé dans une entreprise en alternance. Et de là, j'ai rencontré mon futur mari, avec lequel on a décidé de prendre un garage, il y a de ça une vingtaine d'années.
Oui.
Voilà, et donc nous avons géré ensemble ce garage pendant 7 ans. Et ensuite, pour des raisons diverses, j'ai dû retrouver une autre activité et j'ai retrouvé l'activité Natura House.
D'accord.
Voilà, donc ça fait à peu près 25 ans que je gère des entreprises.
D'accord.
Un peu par hasard.
Alors, ton activité, tu veux nous en parler ? Qu'est-ce que Natura House ?
Alors, Natura House, c'est une franchise espagnole qui est arrivée il y a une quinzaine d'années en France. Je n'ai que des diététiciennes
oui.
Qui sont diplômées. Qui sont professionnels de santé et qui font des consultations en nutrition et diététique.
Oui.
Et qui, pour permettre une meilleure perte de poids, ont toute une armada de compléments alimentaires
oui.
que nous proposons à l'issue des entretiens. Sachant que les consultations avec la diététicienne sont offertes dans l'achat des compléments.
D'accord. Alors, quelle est la genèse de ton entreprise ? Ou plutôt, ta genèse d'entrepreneuse ?
Alors, la genèse d'entrepreneuse, ça a commencé donc avec mon ex-mari, quand lui-même a exprimé l'envie d'être à son compte.
Oui.
Lui avait une formation de technicien.
Oui.
Moi, j'avais une formation de gestion d'entreprise.
D'accord.
Et du coup, on avait vraiment deux secteurs d'activité qui étaient complémentaires pour créer une entreprise.
Oui.
Au cours de cette première partie de ma vie d'entrepreneuse, je me suis retrouvée avec un mandat de conseiller prud'homme.
Oui.
Mandat que je souhaitais garder.
D'accord.
Et pour être conseiller prud'homme, il faut être employeur.
Oui.
Donc, j'avais l'obligation de rester employeur. Donc, j'ai étudié, je ne sais plus, peut-être 4 ou 5 concepts différents.
Oui.
J'étais très attirée par la franchise. Parce que j'étais seule et que j'avais bien compris que la franchise apporte un savoir-faire et un cadre que je n'avais pas en
D'accord.
étant seule. Et Natura House m'a paru naturel parce que c'était novateur, parce que j'aimais beaucoup le côté conseil offert.
Oui.
Et complément alimentaire, c'est une activité qui est très humaine, qui est très, très tournée vers l'autre et vers les difficultés qu'on peut avoir à perdre du poids, parce
oui.
que c'est un vrai enjeu de société, c'est vraiment difficile.
Oui.
Et du coup, je suis tombée à l'époque sur un directeur général qui développait le concept en France, qui m'a fait croire dans ce projet. Et c'était, ça a été une belle aventure, enfin c'est toujours.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivée à devenir entrepreneuse ? Comment es-tu arrivée à lancer, à adhérer à ce concept ?
J'étais une salariée ingérable.
D'accord.
Donc, j'ai été salariée pendant une dizaine d'années et je pense que mes chefs s'en souviennent. Ils s'arrachaient les cheveux. Je n'arrivais pas à l'heure le matin. Je pouvais travailler jusqu'à 20 heures le soir. J'avais une capacité énorme de travail.
Oui.
Mais vis-à-vis des autres, j'étais ingérable.
D'accord.
Voilà. Et du coup, je savais que c'était compliqué pour eux, mais c'était aussi compliqué pour moi, parce que je suis un peu un électron libre.
Oui.
Et ce cadre de salariat, je pense, convenait pas à mon meilleur potentiel, en fait.
Oui.
Et donc, j'avais vraiment... je sais pas. Ça s'est fait par hasard. Mais quand 7 ans après, j'ai dû réfléchir, je me voyais pas retourner salarié, en fait.
Donc,
au-delà du mandat prud'homme, il fallait absolument que je trouve quelque chose qui me permette de gagner ma vie tout en gardant cette faculté de liberté, en fait.
Oui.
D'indépendance.
Donc, voilà, c'est surtout l'indépendance et cette liberté à pouvoir entreprendre et être libre de monter des projets et à voir aboutir ses projets, quoi.
C'est ça.
D'accord. Penses-tu qu'un entrepreneur, justement, a besoin de multiples diplômes, d'avoir fait des grandes écoles, etc., pour bien entreprendre?
Alors oui et non. Moi, j'ai pas de diplôme.
Oui.
Mais je suis parfaitement consciente, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est-à-dire que je suis parfaitement consciente que j'ai dû travailler 2 fois plus après. C'est-à-dire que le travail, ou on le fournit avant ou on le fournit après.
Oui.
C'est-à-dire que je pense pas que ça soit important d'avoir des diplômes pour entreprendre, mais je pense que le travail qu'on n'a pas fourni avant pour avoir des diplômes,
oui,
on le fournit après pour apprendre.
Oui.
Fin 2012, je suis rentrée au Centre des jeunes dirigeants de Tours.
D'accord.
Que j'ai présidé en 2015. J'ai appris à devenir un manager.
Oui.
J'ai appris à travailler en équipe. J'ai appris à déléguer, j'ai appris à organiser mes structures. J'avais pas appris ça, moi, à l'école.
Oui.
Puisque je n'avais pas fait d'études de commerce ou d'études qui concernaient ça.
Et je pense que même toutes ces missions de management, de structuration d'entreprise, c'est un peu sur le tas qu'on les apprend.
Ben pas forcément. Si on a fait des écoles où on nous a dit des choses, on peut adapter, c'est des techniques.
Oui.
Voilà, moi, j'ai ouvert Naturhouse en 2007.
Oui.
Je suis rentrée au CGD en 2012.
D'accord.
Pendant 5 ans, je ne déléguais rien d'important. C'est-à-dire que j'avais conscience que ce que je faisais était bien, et comme je le faisais très bien, j'étais la seule qui pouvait le faire aussi bien. Et donc, je ne déléguais rien d'important.
Ouais.
Sauf que 5 ans après, j'étais dans le mur.
Ouais.
Parce que à l'époque, j'avais 3 magasins. Au 3e magasin, c'était plus possible de tout faire.
Ouais.
De faire toutes les remises en banque, de faire tous les stocks, de faire tous les managements, de faire tous les entretiens individuels, tout ça toute seule, c'était pas possible.
Ouais.
Voilà. Donc, il fallait qu'on me donne des techniques, des choses qui s'apprennent. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut apprendre à déléguer, à lâcher prise, à comprendre les autres. Voilà. Et ça, on me l'a appris petit à petit dans les dernières années.
D'accord. Quel était ton plus gros challenge dans la création de ton entreprise?
Alors, je suis obligée de mettre un contexte à la création de mon entreprise. Il faut savoir que j'ai ouvert mon entreprise, mon magasin, puisque c'était à l'époque un premier magasin, rue Néréco des Touches à Tours, le 15 janvier 2007. Et le 16 janvier, j'ai découvert que j'étais enceinte et je n'étais plus avec le papa de ma fille.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà le challenge.
C'est okay.
C'est que j'avais une salariée qui arrivait.
Oui.
Puisque j'avais embauché une diététicienne diplômée, moi, et qui était enceinte et qui partait en congé maternité 9 mois après.
D'accord.
Et ça a été, ça a été compliqué.
Oui.
Ça a été beaucoup de travail. Ma fille est née quasiment dans la boutique, parce que j'ai pris 15 jours d'arrêt entre sa naissance et la reprise. Je l'ai biberonnée le premier mois dans le magasin. Ça a été un vrai challenge de pouvoir garder les deux, en fait.
Pouvoir concilier cette nouvelle vie de maman, c'était ta première?
Non, j'avais un fils qui avait 10 ans.
D'accord. Oui, mais quoi qu'il en soit, un enfant en bas âge, une entreprise à gérer, une nouvelle boutique... Surtout, et tout le développement que ça représente, ça a été compliqué.
Ça a été. Mais en même temps, j'ai en moi cette espèce de conviction que si ça a si bien pris, c'est parce que justement il y avait ma fille et que j'étais enceinte, parce que les clientes, il y avait un côté on a créé du lien. Ouais. J'ai créé du lien très vite avec les clientes parce qu'elles m'ont connue, elles m'ont vue devenir plus en plus enceinte et puis venir avec ma fille. Les premières clientes, elles me demandaient des nouvelles de ma fille pendant des mois après, voire des années. Elles m'ont demandé des nouvelles de ma fille, donc ça a fait partie de la réussite en fait.
D'accord. Quelle stratégie ou pari a fonctionné pour toi et quelle stratégie n'a pas fonctionné?
Ah bah, comme je disais tout à l'heure, la stratégie de « il n'y a que moi qui sais faire », ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise.
Oui.
Il faut savoir se dire que ça ne va pas forcément être fait comme moi je l'aurais fait.
Oui.
Mais ça fonctionne. Et ça marche. Et c'est bien comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai nommé une responsable technique qui prend une partie de ce que je faisais avant.
D'accord.
Donc, je lui délègue une partie du management et je la forme pour ça petit à petit. Parce que, il faut savoir se préserver.
Oui.
Il faut savoir ses capacités à faire ou à ne pas faire.
Oui.
Aujourd'hui, moi, il y a des choses que je ne sais pas faire.
D'accord.
C'est OK, je ne sais pas les faire. Alors, soit j'apprends, soit ça ne m'intéresse pas d'apprendre et je fais faire par d'autres. Mais voilà, il ne faut pas, croire qu'on va tout compenser. En 2019, mon comptable m'a dit « Le problème dans votre entreprise, c'est que la valeur d'ajustement, c'est vous. »
D'accord.
Et là, j'ai compris que ça, c'est pas possible, que la valeur d'ajustement, ça soit moi.
Ouais, la variable,
C'est pas impossible. Possible.
D'accord.
Il faut que le système repose hors moi, et que moi, je sois juste le plus que j'apporte, en fait.
Oui.
Je peux pas compenser en permanence tout le monde.
D'accord. Une vie à 100 à l'heure, pour le coup, quand parviens-tu à souffler?
Alors, je m'impose à... J'y arrive à 99% de ne pas travailler le week-end.
D'accord.
Ça, c'est le CJD qui m'a appris ça. Parce que quand je suis rentrée au CJD, je travaillais du lundi au samedi dans mes magasins.
Oui.
Et je faisais la comptabilité le week-end.
Oui.
Et j'expliquais à ma fille que c'était très important ce que faisait maman. C'était plus important que de m'occuper d'elle. Voilà. Et un jour, j'ai pris conscience que non. Ce qui était important, c'était de m'occuper d'elle.
Oui.
Parce qu'un jour, elle serait plus là. Et qu'elle me dirait, t'étais pas là quand j'avais besoin. C'est pas la peine d'être là maintenant. Donc, ils m'ont dit, c'est la première question qu'on m'a posée quand je suis rentrée au CGD. On m'a dit, est-ce que tu travailles le week-end? J'ai dit oui. On m'a dit, arrête ça. Arrête de travailler le week-end. Je prends un mois de vacances l'été. Je prends des vacances dans l'année. Donc, je suis à 100 à l'heure dans les périodes où je travaille.
D'accord.
Et je fais des pauses.
Ça a été compliqué pour toi de faire ce chemin, ce cheminement justement de lâcher prise le week-end pour ta famille?
Alors, le cerveau lâche pas forcément toujours prise comme il faut, mais ça a été compliqué, oui, parce que tu te dis toujours c'est pas grave, j'ai pas fait ça dans la semaine, mais je le ferai ce week-end.
Oui.
Voilà. Et non, il faut pas le faire le week-end. J'ai déjà des choses qui envahissent mes week-ends maintenant avec la CPME et il faut que je travaille là-dessus, en fait. Parce qu'on m'entraîne sur une sollicitation permanente et il faut, là, dans les mois à venir, que je structure ça chez moi. Ça dépend de moi. La première leçon que j'ai apprise, c'est que ça dépend de moi.
D'accord.
Ça dépend pas des autres. Quoi que je fasse, quoi que je mette en place, c'est moi.
Oui.
Si je me laisse entraîner à travailler le week-end, je me laisse entraîner à travailler le week-end. Personne ne m'impose ça.
Oui.
Voilà. Donc, c'est à moi de travailler sur moi pour que ça me convienne et que ça convienne à ma famille.
D'accord. Avec tes années d'expérience dans l'entrepreneuriat, quel est le principal conseil que tu donneras à quelqu'un qui souhaite entreprendre?
De bien comprendre que sa seule limite, c'est lui-même, en fait. La seule limite qu'on a, c'est nous-mêmes.
Oui.
C'est, il ne faut pas écouter les autres. Moi, j'ai fait des erreurs.
Oui.
J'ai ouvert un magasin à fond d'aide en sachant que c'était une erreur. Je savais que c'était une erreur. Je l'ai fait parce qu'on me l'a imposé un petit peu, par des injonctions. Et 2 ans après, j'ai refermé. Donc, ça fait 3 ans que j'assume un prêt pour un magasin qui est fermé.
Oui.
Mais je m'en prends qu'à moi-même. J'ai accepté ces injonctions. J'ai pas tout perdu parce que ça m'a apporté beaucoup au niveau expérience. Mais ça a été difficile de remonter.
Oui.
J'ai mis 3 ans à me retrouver aujourd'hui, un petit peu dans l'avant l'ouverture de Fondette en 2017.
D'accord.
J'ai fermé en 2019 et on est en 2022 et je commence tout juste. Alors, mon activité va pas très bien parce qu'avec le Covid et avec l'air ambiant, le commerce est difficile aujourd'hui.
Oui.
Et les clients ne reviennent pas pour le moment de façon pérenne.
Oui.
Donc c'est voilà, je mets en place des choses pour tenir le coup jusqu'à ce que ça s'arrange, parce que je suis profondément convaincue que ça va revenir.
Oui.
Mais que bon, voilà, il faut un petit peu plus de temps que prévu. Pour autant, voilà, notre limite c'est nous-mêmes. Si on décide, il faut pas écouter, il faut écouter les autres, mais il faut écouter plein d'autres.
Oui.
Voilà, moi j'écoute plein de gens. Je parle avec plein de gens et j'écoute ce qu'ils me disent. Je considère que je n'ai pas de certitude.
Oui.
Voilà. Ce qui nous tue, ce sont les certitudes. C'est d'être sûr d'avoir raison.
Oui.
Moi, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Et du coup, on a tous nos blessures d'enfant. Donc, on a tous nos... On est plus ou moins sûr de soi. On a plus ou moins confiance en soi.
Oui.
Moi, j'avais plutôt pas confiance en moi. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup au conseil des autres.
Oui.
Et maintenant, j'ai confiance en moi, ce qui ne m'empêche pas de continuer à les écouter. Mais j'arrive à trier, en fait, ce qu'on me dit. Et du coup, voilà, à essayer de prendre la meilleure décision.
Oui.
Et de considérer que je fais de mon mieux dans cette décision.
D'accord.
Voilà. Et d'accepter l'échec. D'accepter oui. de faire des erreurs, d'accepter de se tromper. Et de ne pas s'enferrer dans une situation qui nous amène dans un entonnoir, quoi.
Oui.
Voilà. Il faut éviter de se retrouver dans la situation d'être acculé. Il faut réussir à s'ouvrir sur enfin, mon analyse, c'est que c'est très français de ne pas accepter l'échec.
Oui.
Alors, pour pas que les autres voient l'échec, on va faire des choses qui sont juste hallucinantes. Les pays anglo-saxons, ils n'ont pas cette culture du non-échec. Et donc, ils rebondissent beaucoup plus vite parce que ok, d'accord, ça n'a pas marché, ben, je vais faire différemment.
Oui.
Et ça fonctionnera peut-être. En France, on a quand même tendance souvent à faire toujours pareil et à se dire pourquoi ça marche pas ? Ça devrait marcher, j'ai décidé que ça marcherait, donc ça va marcher.
Oui.
Voilà. Ben non, il faut juste changer un petit quelque chose des fois.
Changer de cap, ouais.
Changer de cap, des fois, c'est pas grand-chose.
D'accord. En fait, je me rends compte que quasi tous les entrepreneurs qui sont passés sur ce podcast parlent toujours de l'échec, en fait. Et ce rapport qu'on a à l'échec, où on ne l'accepte pas, où on veut que ça soit caché, où c'est une tare d'avoir échoué, alors que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il y a des échecs, il y a des réussites. Alors,
j'ai du mérite et je n'ai pas de mérite. Mon ex-mari s'est suicidé.
Oui.
Il s'est suicidé en 2013. Et quand D'accord. il s'est suicidé en 2013, moi j'étais toujours associée.
Oui.
Et il ne payait pas ses salaires à la fin du mois.
Oui.
Voilà. Donc pour moi, c'est un burn-out qui a été lié à plein de choses.
Oui.
Il n'empêche qu'il a appelé des gens quelques jours avant pour leur dire qu'il perdait la société.
D'accord.
Et moi, j'ai repris la société. C'est-à-dire que quand je suis rentrée au CGD, j'avais 3 magasins et pendant un an, j'ai géré le garage.
Oui.
Avec 4 salariés qui avaient 35 ans d'ancienneté.
Oui.
Voilà. Donc, à un moment, j'ai réalisé en fin d'année que je ne pouvais pas le faire. Qu'un garage, c'est quelque chose de particulier. Moi, je n'y allais que le lundi. Les clients, ils ont besoin d'être en face du chef d'entreprise. Ils ont ouais. besoin d'avoir un technicien devant eux. Ils ont besoin d'être rassurés. Et moi, je ne pouvais
aussi.
Pas leur offrir ça.
Ouais.
Les salariés aussi. Et donc, j'ai pris la décision, parce que j'ai parlé avec des gens, de vendre les parts sociales du ouais. garage. Et j'ai vendu. Et
D'accord.
un mois après, je les ai donnés quasiment. Mais c'était... Enfin, si je m'étais enferrée pour ne pas échouer,
ouais.
j'aurais tout perdu.
Ouais.
Parce que ça aurait été un tsunami. J'aurais jamais pu faire ça.
D'accord.
Voilà. Donc, chaque fois que j'ai eu des choses dans ma vie qui ont été compliquées, j'ai toujours pris ça. Il faut prendre ça comme étant quelque chose de positif.
Oui.
À Tournord, j'ai déplacé mon centre. J'ai tout le temps un truc qui m'arrive. Quand on est un chef d'entreprise, on a tout le temps des choses qui arrivent.
Oui.
Vous croyez que ça y est, c'est bon, j'ai mon équipe, tout va bien, on sort du Covid, bam, je reçois l'huissier qui m'apprend que mon local de Tournord, je le garde pas.
D'accord.
Mon propriétaire ne renouvelle pas le bail.
Oui.
Voilà. Donc j'aurais pu aller au tribunal, j'aurais pu essayer d'obtenir le maximum. J'ai négocié une indemnité qui me paraissait correcte. Et j'ai cherché à me réinstaller. J'ai fermé 3 mois et je me suis réinstallée
oui.
dans un local que tu as vu, qui est mieux qu'avant.
Oui.
Donc il faut toujours se dire, voilà, qu'est-ce que la vie me donne là ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Qu'est-ce que j'en fais ?
Exactement, oui.
Voilà. Mais ça, je te l'aurais pas dit il y a 15 ans. Je te le dis maintenant.
Oui, avec le recul.
Avec le recul, avec ce que j'ai vécu, ouais. avec cette... J'ai appris un jour, on m'a dit résilience.
Ouais.
J'avais jamais entendu ce mot-là. Résilience. Et je me suis dit, effectivement, c'est ça la résilience. C'est la capacité à pouvoir, ok, ça, voilà, qu'est-ce que j'en fais?
Oui.
Où ça m'emmène? Et ça m'a emmené où je suis aujourd'hui, en fait. Donc, c'est parfois super difficile, parce qu'il faut y mettre de l'énergie à remonter.
Oui.
C'est plus facile de lâcher et d'abandonner.
Sûr. C'est sûr. D'accord. Qu'est-ce que pour toi un entrepreneur?
Eh bien, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend sa vie, qui entreprend... Un entrepreneur, il entreprend pas que sa société, il entreprend sa vie entière. Un entrepreneur, quand il emprunte de l'argent... moi, le PGE, ça m'a sauvé mes nuits.
Oui.
Parce qu'avec Fondette, j'avais des prêts où j'étais responsable. J'avais une caution bancaire.
Oui.
Et une caution bancaire, ça veut dire que le banquier, si tu payes pas, il vient chercher ta maison.
Oui.
Et moi, mes deux enfants n'ont pas de père. Et pour moi, c'était juste pas envisageable, avec mes enfants, qu'on puisse toucher à ma maison.
Oui.
Et j'ai pris des PGE parce que ça m'a permis d'emprunter de l'argent dont je n'étais plus responsable.
D'accord.
Ça ne veut pas dire que je me dis que je ne peux pas les rembourser.
Oui.
Ça veut juste dire que ces prêts-là peuvent m'aider à rembourser, en cas de problème, des prêts où j'étais responsable.
Oui.
Et qu'on ne pouvait plus me prendre ma maison.
Oui.
Voilà. C'est la différence avec... tu sais, je rencontre dans ma vie professionnelle des gens qui sont des directeurs, qui ne sont pas des entreprises patrimoniales, qui n'ont pas créé, qui ont fait des études, que j'admire. Moi, j'ai eu un syndrome d'imposteur pendant très longtemps, parce que ces gens-là, pour moi, ils étaient au-dessus de moi.
Oui.
Ils étaient meilleurs que moi, parce qu'ils étaient directeurs, parce qu'ils étaient présidents de telle ou telle structure, telle ou telle société, et ils géraient 150 ou 200 salariés.
Oui.
Mais ils ont quelque chose que j'ai quelque chose qu'ils n'auront jamais. J'ai le chéquier de mon entreprise.
Oui.
Je prends mes décisions et j'évalue les conséquences de mes décisions quand je les prends.
Oui.
Un directeur, il n'a pas le chéquier. Il signe peut-être des chèques, mais il n'assume pas les conséquences de ses actes.
Oui.
Jamais. Voilà.
C'est sûr.
Et nous, on assume. Si on perd notre boîte, c'est parce qu'on a fait des erreurs qui ont été fatales.
Oui.
On ne peut pas, du jour au lendemain, dire « bon bah juste, je démissionne » ou être licencié.
Oui, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Ouais. On est marié avec sa boîte.
Et notre famille est mariée. Mes enfants vivent dans ma boîte depuis 15 ans.
Oui.
Donc, ma fille a appris à accepter ça. Plus petite, elle acceptait moins facilement. Aujourd'hui, elle accepte plus facilement parce que, voilà, elle prend les choses comme elles sont. Parce que j'essaye de lui apprendre ça, de prendre les choses comme elles sont.
Oui. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant. Le syndrome de l'imposteur. Comment as-tu combattu ce fameux syndrome?
J'ai beaucoup parlé avec des gens. J'ai découvert ce mot, syndrome de l'imposteur, dans une réunion un jour, où quelqu'un qui, pour moi, était tellement haut à côté de moi, il a exprimé le syndrome de l'imposteur. Il a dit, moi, je suis à ce poste. Il était à un poste très, très élevé, dans une boîte très, très importante.
Oui.
Et quand il a parlé de son parcours, il a dit, oui, alors ça, je l'ai eu par hasard, ça, je l'ai fait par hasard, ça, c'est une opportunité que j'ai saisie. Et au final, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, non mais, il est comme moi, quoi.
Oui.
Lui qui a fait tant d'études, qui a un tel poste si important, lui aussi, il se dit qu'il ne mérite pas l'endroit où il est, en fait.
Oui.
Et donc, ça a été un travail sur moi, sur... Je suis beaucoup aidée en soi par mon compagnon, depuis plusieurs années, qui me dit non. Non, tu n'as pas à culpabiliser de ci ou de ça, tu n'es pas en dessous de cette personne. Ou
tu es
légitime. Donc, la légitimité, elle est tu sais, je suis présidente de la CPME 37.
Oui.
Et ça ne paraît pas comme ça, mais quand tu es présidente de la CPME 37 et que tu as le parcours que j'ai, t'es pas forcément légitime aux yeux des hommes qui t'entourent, en fait.
Ouais.
Moi, je suis une femme.
Ouais.
J'ai pas prouvé grand-chose. Enfin, pas de façon très officielle. Et du coup, la légitimité, elle se mérite, en fait, dans ces cas-là.
Ouais.
Beaucoup plus chez une femme que chez un homme. C'est comme ça. Moi, j'accepte ça. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus remettre en cause une femme qu'on remettra en cause un homme.
Je comprends, oui.
Et du coup, c'est pour moi, je me pose même pas la question, en fait. J'ai été élevée comme ça pendant 25 ans.
Oui.
Donc,
C'est un combat quotidien.
C'est pas un combat. Moi, je suis pas dans le combat.
T'es pas du tout dans le combat.
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Tu sais, au conseil de prud'homme, ce que j'aime faire, c'est les conciliations. Si j'avais du temps, je voudrais être médiateur de la République, tu vois.
Oui.
Je suis quelqu'un qui suis au contraire dans la discussion et dans l'échange. Beaucoup.
D'accord.
Même si, des fois, on me catégorifie pas là parce que j'ai beaucoup de personnalité.
Oui.
Et encore, ça, c'est un terme. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis beaucoup dans la discussion. Et,
oui.
Et pour moi, on ne peut. La communication, c'est vraiment le nœud du sujet, en fait.
D'accord.
Dans les conflits salariés-employeurs, dans les conflits du travail, dans les conflits de relations de personnes,
oui.
Tu regardes toujours l'origine du conflit, c'est toujours un problème de communication.
Oui.
C'est toujours un malentendu. Quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose qui se passait.
Oui, c'est des points de vue différents.
C'est des points de vue différents. Et
oui.
Des gens qui n'acceptent pas le point de vue de l'autre.
Oui.
Voilà. Et moi, ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est de comprendre pourquoi les gens perdent le fil de la communication.
Oui.
C'est pas un combat. Moi, je combats pas, je combats rien. Je suis ni féministe, ni machiste, ni je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis même pas pour l'égalité. On n'est pas égaux. On fonctionne différemment, on réfléchit différemment, et c'est ok. Il faut accepter l'autre tel qu'il est.
Oui.
Voilà. C'est juste riche.
Ah oui, c'est sûr. Ok. As-tu des mentors, des personnes qui t'ont aidé à te construire et progresser dans tes activités?
Oui, tous les gens qui m'entourent.
Oui.
Tout le monde. Tous les gens que j'ai rencontrés, en fait.
D'accord.
Aussi bien au CJD qu'à la CPME, que partout, les gens qui m'ont fait voir les choses différemment. Tu sais, moi, quand je suis arrivée au Prud'homme, au conseil de Prud'homme,
oui.
Les employeurs, les salariés. Voilà. Moi, le syndicalisme, si tu veux, j'en avais une image. J'ai travaillé 5 ans chez Renault.
Oui.
À l'époque où on est sorti de la régie Renault. Donc le syndicalisme, je savais ce que c'était.
Oui.
Et je le combattais. Parce qu'en tant que salarié, pour moi, c'était pas ce qui faisait avancer les choses.
D'accord. Voilà.
Et aujourd'hui, ils m'ont appris à voir les choses différemment.
Oui.
On a discuté, on a parlé, ça se passe très bien. On arrive on n'a pas forcément le même point de vue sur les dossiers. Hein. Attention, je dis pas
sûr.
Que je suis forcément d'accord avec eux. Mais je sais discuter avec eux, et ils savent discuter avec moi, et ça se passe bien.
Oui, exposer ton point de vue, tout simplement.
Sans violence, sans que... En fait, un jour, quelqu'un m'a dit on n'est plus dans la communication le jour où on veut imposer son point de vue à l'autre.
Oui.
Eh bien, tout est là, tout est dit. Veux convaincre l'autre que tu as raison, tu n'es plus dans la communication, c'est fini.
C'est vrai. Ouais.
Tu ne peux être dans la communication que si tu es ouvert à ses arguments.
Oui.
Je dis pas qu'on va pas se convaincre, hein. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à se convaincre sur un sujet ou sur un autre. Mais au moins, t'as entendu mon point de vue, j'ai entendu le tien. Et peut-être que je mets une petite graine dans ta tête qui va pousser et qu'à un moment tu te diras, elle avait peut-être pas complètement tort.
Oui.
Parce que moi, il y a une petite graine dans ma tête qui va me faire dire ça un jour.
Oui.
Tu vois? Voilà.
Bien sûr.
Alors ça paraît un peu bisounours, hein, ce que je dis, hein. Mais je pense que si tout le monde avait aujourd'hui cette ouverture, il y aurait beaucoup moins de conflits, en fait, entre les gens.
Oui. J'ai envie de dire, c'est un élément essentiel, quoi. Cette ouverture d'esprit et comprendre l'autre dans beaucoup de choses. Hein. Dans beaucoup de choses, notre vie, vie de couple, par exemple, si on ne comprend pas son conjoint et on impose sa façon de penser, c'est voué à l'échec.
Ça ne marche pas.
Ouais.
Pour autant, je n'étais pas comme ça à 25 ans. Hein.
Oui. Alors, quels sont tes futurs projets ?
Mes futurs projets, alors chez Nature House, j'ai plein de projets.
D'accord.
J'ai 1 million de projets. J'ai aujourd'hui un local qui me permet d'avoir des projets.
Oui.
Et donc j'ai des projets de développement vers toutes les activités qui vont concerner le bien-être.
Oui.
Tout ce qui va aider la perte de poids, parce que nous, on est un paramètre de la perte de poids,
oui.
Qui est la diététicienne et les compléments alimentaires.
Oui.
Il y a 2 autres paramètres qui pour moi sont intéressants, c'est le bien-être, parce
oui.
que c'est lié, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir maigrir. Donc de travailler en partenariat avec des professionnels qui vont pouvoir être, je sais pas moi, tout. Le sport, la détente, l'hypnose, enfin tout ce qu'on peut envisager de choses qui pourraient aider à cette perte de poids.
Oui.
On va faire une cuisine. On va mettre en place une cuisine là, fin août, début septembre.
D'accord.
L'idée étant de développer des ateliers culinaires, tout
oui.
ce qui est autour de la diététique.
D'accord.
Et de la rapidité à manger, parce que j'ai bien compris aujourd'hui que les gens ont besoin de manger vite.
Oui.
De pas avoir des préparations qui durent des lustres et de faire plaisir sans prendre du poids.
D'accord.
Donc, je vais essayer de travailler avec des gens qui me permettent ça, avec des produits locaux qui vont me permettre de développer ça, de faire des ateliers autour de, je sais pas moi, du chocolat ou des choses qui vont être, qui vont apporter de ce côté-là, ou des menus rapides, des apéros dînatoires légers, des choses comme ça.
Ouais.
Avec mes diététiciennes et avec tous les professionnels avec lesquels je pourrais travailler en partenariat. À la CPME, on a aussi des projets, et notamment un projet Made in 37, qui est en fait issu de l'existant, puisque le vice-président de la CPME nationale, Pierre Cuchely, qui est président de la CCI 95, a développé un Made in 95.
Oui.
Et donc, j'ai été le rencontrer, j'ai beaucoup discuté avec lui, et j'ai affiné un petit peu son projet à lui, avec un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je trouve qu'on a un département qui est magnifique.
Oui.
On a des acteurs locaux qui sont très engagés.
Oui.
Et que le consommateur ne le sait pas, en tout cas pas de façon réelle, et que je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, et que tous les entrepreneurs, dont moi, on est tous des consommateurs.
Oui.
Donc on peut s'adresser à tout le monde pour dire voilà, on peut créer un label qui mette en lumière les gens qui travaillent plus avec le local que d'autres.
Oui.
Voilà. Avec des règles de chiffre d'affaires, par exemple, si on a 50% de son chiffre d'affaires qui est uniquement avec des produits locaux, et ça peut toucher tous les domaines d'activité,
bien sûr,
aussi
oui.
bien les commerçants que les artisans, que les restaurateurs, que tout ce qui tourne autour de ça. Et l'idée, c'est aussi de créer une communauté d'entraide entre ces acteurs.
D'accord.
Parce que des fois, on va fabriquer ou acheter quelque chose hors du département en pensant que ça n'existe pas dans le département.
Oui.
Et que mon idéal serait qu'un jour, on ait un annuaire qui nous dise, voilà, je cherche ça. Ah, bah, y a quelqu'un qui le fait à 5 km de chez moi.
Oui.
J'ai pas besoin d'aller à 300 km pour trouver la même chose. Voilà.
Bien sûr.
Donc après, c'est très difficile de lancer un projet. Il faut que les acteurs économiques matchent.
Oui.
Moi, je travaille en collaboration avec mes branches, avec la FFB, avec l'UMI, avec l'UMM, avec les marchés de Touraine, avec tout le monde, pour que je leur ai déjà présenté le projet, ils ont réagi positivement.
D'accord.
Et du coup, voilà, j'ai une idée en tête qui est que on fait pas tout seul, on fait pas grand chose.
C'est sûr.
Aussi bon on soit et aussi, quel que soit le temps qu'on y consacre, si on est tout seul dans son idée, on fait rien. Il faut avoir l'adhésion des autres.
Ben c'est par extension ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon. Comment tu as structuré Natura House en déléguant et en t'entourant, c'est le même principe.
C'est difficile, hein, parce que plus on travaille avec des gens, et plus on doit accepter leur point de vue.
Oui.
Voilà. Si j'avais mon idée, moi mon idée, mon idée de départ, c'était de faire un Made in 37 qui soit copié-collé du Made in 95. Et en discutant avec les uns et avec les autres, depuis 2 mois, mon projet évolue dans ma tête.
Oui.
Parce qu'on me dit, ah ouais, mais il y a ça. Et je me dis, non, mais c'est une super idée. C'est vrai qu'avoir une communauté, pouvoir se dire, tiens, ce soir, j'irai bien au restaurant. Ah, tiens, lui et lui travaillent avec des produits locaux.
Oui.
J'ai très envie d'aller dans un restaurant qui travaille avec des produits locaux. Parce qu'il fait l'effort de travailler avec des producteurs locaux.
Oui.
Voilà. Donc, c'est le projet, il n'était pas comme ça il y a 2 mois, et il sera différent en septembre quand on va le lancer. Parce qu'il évolue au fur et à mesure.
D'accord.
Et j'ai tenu à ce que ça soit une association qui soit hors de la CPME 37, on a créé une nouvelle association.
Oui.
Parce que je veux que ça soit quelque chose d'ouvert. Je veux pas qu'on dise ah non, j'y vais pas parce que c'est la CPME.
Oui,
je veux pas une étiquette CPME, ouais. C'est OK moi qui le lance parce que et je suis CPME, j'aurais pu être autre chose, c'est la vie qui m'a juste mené là.
Oui.
Mais je veux que ça soit le plus ouvert possible en fait.
D'accord.
Que les gens soient pas bloqués par le fait que ça soit telle association ou telle association. Moi, je ne serai pas éternelle à la CPME 37.
Bien sûr.
Et derrière moi, il y aura d'autres gens qui feront d'autres choses, qui seront. Donc, il ne faut pas que ça soit bloqué, en fait.
D'accord, je comprends. Quel entrepreneur me conseillerais-tu d'inviter ? T'en connais plein, tu vas me le dire.
Plein, non mais plein, en fait. C'est toi qui les invites, parce que tu rencontres des gens, tu discutes avec eux et tu as envie, tu vois. Moi, j'ai le sentiment que quand tu m'as rencontré, tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse ce qu'elle a à dire.
Oui.
Voilà, je peux pas te conseiller quelqu'un parce que ce qui m'intéresse, ou le moment où je l'ai rencontré, il va peut-être... et puis, il faut que la personne le sente aussi.
Bien sûr, ouais.
Il faut que ça soit quelque chose que toi, tu ressens et que tu transfères à cette personne. Ouais. Et que du coup, elle a envie de venir. Elle a envie de se dire, je vais bloquer dans mon agenda 1h30 pour venir voir cet homme-là parce que j'ai envie de parler avec lui et j'ai envie que ça soit public.
Ouais.
Je peux pas te conseiller quelqu'un parce que d'abord, ça peut être quelqu'un qui a pas envie. Et puis, ça peut être quelqu'un... il aura forcément des choses à dire. Parce qu'on a tous, comme tu disais tout à l'heure, tu n'invites que des gens qui ont des parcours extraordinaires.
Oui.
Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir un parcours extraordinaire, quel que soit ce qu'on fait et comment on y arrive. Mais il faut avoir cette volonté de réaliser quelque chose, en fait, tu vois.
Oui. D'accord. Mais ça me va aussi bien. Hein. Alors, je vais te proposer une question bonus. Tu vois, ce pot. Allez, tirage au sort de ta main innocente.
Oui, elle est plus très innocente, mais... Avec la maîtrise du temps, qu'est-ce que tu améliorerais dans ton business? Je sais pas. J'améliore toujours, en fait. La maîtrise du temps... le temps ne nous appartient pas, en fait.
Oui.
Il appartient... Moi, tu sais, ma première formation au CJD, c'était gestion du temps.
Oui.
Parce que je me suis dit, OK... J'arrive pas à faire tout ce que je fais dans ma journée, donc je vais aller apprendre à gérer mon temps.
Oui.
Et ce jour-là, j'ai appris que le temps, c'est une donnée qui m'appartient pas. Je peux pas mettre à la banque. Le formateur temps, nous a dit ça. Il m'a dit, vous pouvez pas mettre à la banque ce que vous n'avez pas utilisé la veille. Ce que vous n'avez pas utilisé, c'est perdu. C'est fini. C'est la nouvelle journée, elle commence le matin quand tu te lèves.
Oui.
Et tout ce que t'as fait en trop ou pas assez, c'est fini. Donc, j'ai pas la maîtrise du temps. Je peux pas, je l'aurai jamais. Donc, moi, tu me parlais tout à l'heure de chemin, de comment t'en es arrivé. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, mes formations au CJD, ça a été ça. Gestion du temps. OK, tu peux pas maîtriser ton temps. Donc, gestion du stress, parce que j'étais très stressée.
Oui.
Donc, OK, je vais maîtriser mon stress. Et là, il m'a dit, non, le stress... Enfin, un autre formateur m'a dit, le stress... Il y a du bon stress et du mauvais stress. Donc, il faut juste que tu tries et que tu gardes le bon stress.
Oui.
Et là, j'ai fait déléguer en donnant du sens. Parce que je me suis dit, OK... Comme je ne peux pas tout faire dans le temps qui m'est imparti, et que si je ne fais pas tout, je suis trop stressée, il faut que d'autres fassent aussi.
Oui.
Voilà. Donc, c'est juste un chemin, en fait.
D'accord. Nous arrivons à la fin de ce podcast et nous finirons par ton mot de la fin. Quel est-il?
Si je dois avoir un mot de la fin, il faut toujours y croire, en fait.
Oui.
Il faut toujours y croire, quel que soit ce qui nous arrive. Tu sais... je vois des gens qui lâchent prise et qui meurent de ça. Parce qu'ils n'y croient plus, en fait. Ils pensent que la seule solution, c'est de plus être là.
Oui.
Alors qu'il faut toujours y croire, parce qu'il y a des moments difficiles. La vie est difficile.
Oui.
Et si on ne se dit pas ça au départ, dès qu'il arrive quelque chose... Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi aux enfants et à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et mon analyse, c'est de dire, on dit pas assez aux enfants que la vie est difficile.
Oui.
C'est-à-dire que nous, parents, on fait tout pour que la vie de nos enfants soit facile. On veut que ça soit facile pour eux. Oui. On veut leur acheter ce dont ils ont besoin. On veut leur donner à manger ce qu'ils ont besoin. Et on veut qu'ils se soient heureux parce que c'est facile. Et un jour, ils se retrouvent dans la vraie vie.
Oui.
Et ils se rendent compte que non, c'est pas facile.
Oui, c'est sûr.
Et là, ils sont perdus parce qu'on leur a pas donné les armes. Moi, je pense que... je ne suis pas parfaite comme maman, mais en tout cas, je donne ça à mes enfants. Mon parcours de vie leur démontre que la vie est difficile, mais qu'il y a toujours un espoir. Il y a toujours quelque part quelque chose qui te fait dire « là, ça y est, si je vais là, je vais avoir un moment de bonheur. »
D'accord.
Et puis après, on voit step by step, étape par étape, ce qui se passe.
D'accord. Donc ton mot de la fin, croyez en vous.
Croyez en vous, croyez en l'avenir, croyez que tout est en vous.
Oui.
Tout est en vous pour réussir, en fait. Tu vois?
Oui.
Quelque part, il faut juste le trouver. Il faut juste trouver dans la bonne case où tu as cette énergie qui va t'emmener là.
D'accord.
Mais tout est là.
Ok. Je te remercie, Karine.
Merci de m'avoir invité.
Les sujets abordés étaient intéressants et ta façon de voir les choses inspire, tout simplement. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Je te remercie pour ton écoute. cet épisode t'a plu, tu souhaites nous soutenir, tu peux le faire en réalisant plusieurs petites actions. En likant cet épisode sur ta plateforme d'écoute, cela permettra d'améliorer notre référencement. Tu peux aussi partager cet épisode à ton entourage. Pour nous suivre, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast sur la plateforme audio de ton choix. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Merci à toi, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.